Questions.
Oui, il va y avoir beaucoup de questions. Voilà. Bon, on va attendre un petit instant. Il est moins 25, on a évidemment un petit peu de retard. Je pense qu'on peut quand même consacrer un bon quart d'heure à la discussion. Et j'espère que, on va non pas parler à la place les uns des autres, mais s'écouter, et c'est aussi bref que possible. Je vais simplement dire une chose. Dans ce colloque et au sein du groupe Princep, cette question a beaucoup travaillé sur les médicaments essentiels. Et on avait établi une liste avec l'aide de la médecine interne et des généralistes enseignants. Ça a été publié, mais dès qu'on a développé les choses, ça a été étouffé par l'ambiance. Par contre, la loi de 2016, la loi santé de 2016, prévoyait l'établissement de listes de médicaments préférentiels qui devaient répondre à la question qui se pose
c'est la chaise.
Beaucoup plus en 2019 qu'elle ne se posait en 2016. Cette démarche à laquelle nous devions être associés parce qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus a été complètement enterrée par la HAS. Il n'en est rien sorti, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appliqué la loi. C'est quand même fabuleux. Alors, ils vont peut-être redéfinir de nouvelles listes, mais bon. Je n'en dis pas plus et je pense que on va passer. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Un, deux, trois, il y en a partout. Bon, allez, on va commencer là-bas pour changer.
Ma question sera très courte. Lorsque la France a eu un problème d'approvisionnement au pétrole, on a créé des stocks stratégiques de 3 mois, obligeant les pétroliers à avoir 3 mois d'avance. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas ça à nos gouvernements actuels en médicaments ?
C'est prévu dans le cadre du PLFSS actuellement de créer beaucoup des stocks avec un maximum de 4 mois. Voilà. Par contre, le stock, là, ce qui est intéressant, ce qui se dessine, c'est que visiblement, ça serait tout médicament. Je précise, parce qu'à chaque fois, alors est-ce que ça va être gérable ? À chaque fois, il y a toujours cette question, quel médicament concerné ? Donc, dans le PLFSS, c'est prévu de faire un stock pour le territoire national.
Michel Doré.
J'ai vu dans les mesures, la première, même, c'est la planification, justement, pour gérer les stocks, etc. Mais je n'ai pas entendu le terme d'anticipation. Parce que, certes, garder des stocks, c'est intéressant, mais vous nous avez montré que ça allait nous coûter plus cher. Si on pouvait avoir un petit peu de vision et d'anticipation sur une future diminution d'approvisionnement, pour ne pas dire de pénurie, ça permettrait de s'organiser, de travailler sur les alternatives et sur l'organisation de la réponse du système de soins. Et une autre question à laquelle vous n'aurez peut-être pas tout de suite une réponse, c'est à quand les pharmacos du cœur ?
Alors, sur les stocks, juste précision, les stocks 1 seraient quand même tournants, c'est-à-dire qu'on ne garde pas un médicament pendant 4 mois, et serait à la charge des industriels. Pas de charge. Ça, c'est la première chose. Et après, sur l'anticipation, il y a un sujet qui est dans la loi et qui va être précisé par décret. C'est la question de l'information des industriels quand ils arrêtent notamment une production. C'est-à-dire qu'actuellement, la loi est insuffisante, c'est applicable maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont une occasion d'informer. S'ils ne le font pas, derrière, ils sont sanctionnés. Mais c'est un délai qui est très court, c'est 6 mois ou 1 an. Et là, du coup, ce qui est précisé dans la loi, mais avoir l'application comme d'habitude, ce serait que le délai serait mesuré en fonction des alternatives. Alors nous, les alternatives, à chaque fois, on dit attention, les alternatives, c'est pas parce qu'il y a une alternative qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est une dimension qui est discutée actuellement, c'est-à-dire anticiper, c'est-à-dire qui est une information à l'ANSM, notamment, beaucoup plus en amont, pour permettre d'anticiper. Généralement, quand on a l'information, on est déjà dans le monde. Voilà, c'est quand même clair.
Qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui a été formulée par Alain Astier sur les ondes de France Info il y a quelques semaines? Alain Astier est pharmacien, ancien pharmacien-chef de la pharmacie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, et il est membre, je crois, de l'Académie nationale de pharmacie. Et il proposait qu'on crée une entité publique de production en France de ces médicaments qui sont en pénurie. Et moi, en tant qu'ancien interne des hôpitaux de Paris, où j'ai travaillé pendant plus de 2 ans à la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, je sais qu'on a les installations pour la PCH à l'époque, ça s'appelle maintenant la GEVS, produisait le paracétamol en comprimé. Hein. Donc, ils savent produire. Donc, on pourrait réintégrer dans des entités publiques, financées par l'argent public, ce que les laboratoires rechignent maintenant à faire parce que ça les désintéresse totalement. Ils ne gagnent plus rien sur ces vieux médicaments, pourtant utiles. Qu'est-ce que vous pensez de la faisabilité de ce type de proposition?
En fait, c'est la discussion est ouverte, puisque dans le cadre du comité de pilotage de la ministre, il y a un groupe de travail, solutions publiques-privées. Il n'a pas démarré, mais c'est clairement à l'agenda. Je ne sais pas où ça va nous mener. Nous, on pense que c'est intéressant, et puis on regarde l'expérience américaine, puisque en Amérique, on a une expérience, aux États-Unis, donc à peu près un millier d'hôpitaux.
C'est public-public.
Alors eux, c'est public-public, effectivement.
Ça marche, voilà. Public-privé.
Alors en France, pour l'instant, on n'a pas avancé, mais c'est les deux options qui sont à l'agenda. Mais il y a effectivement cette expérience américaine qui a regardé de près.
Autre question, quelle est la proportion sur les 1200 médicaments en pénurie en 2019 de médicaments qui sont aujourd'hui tombés dans le domaine public et qui sont... qui ont perdu leur brevet. Est-ce qu'on a fait ce calcul?
Alors, je n'ai pas trop appuyé dessus pendant la présentation, mais nous, on a un vrai problème. C'est la transparence, c'est-à-dire que sur les causes des pénuries. Et ça, c'est quand même, déjà, c'est quand même un droit, hein, première chose. Et puis après, deuxième chose, pour mettre en place les mesures adéquates et adaptées, il nous faudrait une information complètement là-bas actuellement. Si vous allez sur le site de la NSM, c'est rupture fabricant, c'est tension, quand c'est un peu anticipé, c'est rupture d'impôt. Alors, il y a des chiffres qui sont un peu plus globaux au niveau de la NSM et qui ne nous donnent pas ce niveau de détail. Et ça, c'est un vrai travail qu'on demande déjà au niveau européen aussi, qu'on aille au fond médicament par médicament, connaître les causes, etc., pour nous donner... Clairement, moi, je n'ai pas cette info, d'ailleurs, je ne sais pas clairement qui peut la donner.
On doit pouvoir croiser simplement un fichier avec la base publique du médicament. Hein. On a les produits qui sont...
Je voulais parler des sanctions. Est-ce que vous êtes renseigné en ce qui concerne l'attitude des autres pays vis-à-vis de ce problème, par exemple des États-Unis ou de l'Europe? Parce qu'en France, il y a une tradition, on ne sanctionne pas l'industrie pharmaceutique. Aux États-Unis, quand il y a de la publicité mensongère, c'est des amendes de plusieurs milliards de dollars. En France, rien du tout. Quand les mêmes entreprises font la même publicité mensongère en incitant à prescrire hors AMM, comme ils le font aux États-Unis, en France, rien. Là-bas, GSK a pris 3 milliards de dollars d'amende. C'est quand même pas des petites places, c'est pas 830 euros. Voilà. Donc, nous, j'ai l'impression qu'il y a un énorme laxisme en ce qui concerne les sanctions contre l'industrie pharmaceutique. C'est probablement la même chose pour ce problème. Est-ce que vous avez regardé à l'étranger comment ça se passe?
Je peux plus vous répondre au niveau européen, mais il y a niveau européen. Les Pays-Bas regardent de près cette éventualité. Les Belges se sont un peu penchés dessus, mais clairement, il n'y a rien. Mais derrière, chez vous,
le transfert de l'EMA aux Pays-Bas, c'est ça
Oui,
le transfert. Ça a arrangé les choses ou...
Non, alors, il y a une task force qui s'est mise en place au sein de l'EMA, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que les industriels sont autour de la table, donc ça va être compliqué.
Ah oui, en plus, ils sont invités. Ils sont chez eux.
Question encore. On va remercier encore Imazaz d'être venu. Avant de partir.